Il y a donc une grande question théologique depuis des siècles qui porte un nom latin comme toutes les grandes questions théologiques, c'est celle du « tues Petrus ». « Tues Petrus », c'est la formule latine qui fait référence à ce que Jésus a dit à Pierre quand il lui dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Et c'est sur ce verset que repose la question de ce qu'on appelle la primauté de Pierre, que revendique l'Église catholique de Rome et qui a entraîné des débats parfois sanglants, en particulier au moment de la Réforme, parce que à ce moment-là, l'Église de Rome voulait essayer d'asseoir sa légitimité sur ce qu'on appelait la succession apostolique, c'est-à-dire l'idée que Pierre aurait été désigné par Jésus comme le chef, finalement, de l'Église, et qu'ayant tout pouvoir, eh bien, il avait aussi le pouvoir spirituel et infaillible de bien choisir son successeur, et ainsi de suite, jusqu'au dernier pape. Donc ça a été, je vous dis, une querelle assez terrible, mais en fait, curieusement, cet appel à ce verset sur la primauté de Pierre n'était pas un débat dans l'Église ancienne, c'est vraiment apparu au moment de la Réforme, parce que dans l'Église ancienne, cette question ne se posait pas, et donc dans l'Église primitive, ce n'était pas vraiment le sujet. Alors sans vouloir rentrer dans des débats difficiles et remettre des débats difficiles entre protestants et catholiques aujourd'hui, nous avons voulu, avec Florence, repenser la manière avec laquelle on peut comprendre quand même ce rôle particulier qu'elle a donné à Pierre d'après l'évangile de Matthieu, et d'essayer de voir comment nous on peut comprendre qu'il y a là quelque chose d'essentiel qui peut nous être dit, non pas sur telle ou telle église, telle ou telle organisation, mais sur notre propre foi. Alors d'abord, je pense qu'il n'est, si on veut être honnête avec le texte biblique, il n'est pas question de remettre en cause, à mon avis, la primauté de Pierre. Évidemment que Jésus a bien dit à Pierre, « Tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon Église ». Donc oui, il donne quand même un rôle très particulier à l'apôtre Pierre. Ça me semble tout à fait indiscutable, à moins de ne pas vouloir lire les textes bibliques. Donc sur ce point, oui, bien sûr, le « tues Petrus » met Pierre dans une situation là particulière. Et je dirais que c'est même peut-être plus que ça. Parce que juste après, Jésus lui dit « Je te remets les clés du royaume de Dieu. Tout ce que tu liras sur terre sera lié dans le ciel et tout ce que tu déliras sur terre sera délié dans le ciel. » Alors sur ce deuxième point, c'est-à-dire sur l'autorité que Jésus donnerait à Pierre de lier ou délier, c'est-à-dire on pense en particulier de le pouvoir de pardonner les péchés ou de faire des choses comme ça, ce serait un peu rapide de dire que ce serait réservé à Pierre. Et sur ce point, je pense que les protestants ont raison de dire que le pouvoir, par exemple, de pardonner les péchés n'est pas réservé ni à Pierre, ni à ses successeurs, ni au seul prêtre, mais est donné à tous, parce qu'on a exactement la même formule un peu plus loin dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 18, verset 18, où Jésus dit exactement la même chose à tous les apôtres, tous les disciples, il leur dit « Tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel ». Et donc, ça n'est pas réservé à Pierre, mais nous sommes tous appelés à être capables, je dirais, d'avoir un rôle essentiel et spirituel dans le monde et dans l'Église, et ça n'est pas réservé à Pierre. Mais si on veut être vraiment honnête quand même, il faut remarquer que lorsque Jésus redit cette formule, non plus seulement pour Pierre, mais pour tous, il n'est là plus question d'une chose qui est évoquée pour Pierre, c'est le pouvoir des clés. Et les clés, ce pouvoir des clés qui fait qu'on représente toujours l'apôtre avec des grosses clés à la main, ce pouvoir des clés est plus important qu'il n'y paraît. Parce que si on fait une recherche dans l'Ancien Testament sur les endroits où il est question de clés, on tombe sur un passage du prophète Ésaïe, au chapitre 22, au verset 20 à 24, où Dieu parle, d'après le prophète, en disant à son Messie qu'il lui donne les clés du royaume de Dieu. Et à ce moment-là, on se rend compte dans Ésaïe que ce pouvoir des clés est un pouvoir immense, c'est-à-dire qu'il lui donne le vrai pouvoir d'agir au nom de Dieu, de décider au nom de Dieu, d'intervenir dans le peuple comme si Dieu lui-même agissait. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, quand le roi donne les clés à quelqu'un, c'est vraiment qu'il le nomme son premier ministre, quoi, son lieutenant, son responsable en titre et en chef, et celui qui a toute autorité comme étant délégué par le roi, et donc là par Dieu, pour gérer ses affaires. Et donc je crois que finalement, mes ancêtres protestants ont peut-être pas toujours été honnêtes en essayant de saper la primauté de Pierre. Si on veut être honnête avec le texte, je dirais que oui, il y a primauté de Pierre, et pour bien plus qu'on ne le pense. Là, vraiment, Jésus dit à Pierre quelque chose d'absolument essentiel et fondamental, qu'il a un rôle premier. Je dirais tout à fait important pour l'Église, pour la foi, pour le royaume de Dieu, et je pense qu'on ne peut pas dire le contraire. La question, c'est de voir ensuite comment on l'articule, et ça, pour ça, il faut cheminer un petit peu finement, et donc nous allons en discuter entre nous, et c'est Florence qui va vous dire comment on peut sortir de cette espèce de vision un peu monolithique d'un Pierre omniprésent.
Alors certes, je veux bien admettre la primauté de Pierre, son rôle primordial, essentiel dans les évangiles. Ça, là-dessus, je pense qu'on ne peut vraiment pas le remettre en cause. Pierre était probablement le numéro un de ce collège apostolique. Mais ce qui est en cause lorsqu'on se réfère à la primauté de Pierre, c'est pas tant de savoir s'il était le premier, le meilleur à cette époque-là, au sein du collège des apôtres, mais bien la transmission apostolique. C'est cette succession apostolique que les protestants ont remise en cause. Cette succession de la primauté, comme si de droit divin, eh bien, on pouvait ainsi hériter de cette primauté que Pierre a reçue. Ça m'ennuie beaucoup. D'abord parce que c'est pas du tout dans les Écritures que Pierre ait reçu les pleins pouvoirs, certes, mais est-ce qu'il peut transmettre ces pleins pouvoirs à une personne, à deux personnes, et à qui? Et puis dans cette succession, il n'y aurait que des saints. Là-dessus, je ne suis pas tout à fait convaincue. Ce pouvoir quasi-divin, il me heurte. Et puis, il faut aussi aller un peu plus loin. Lorsque Jésus dit à Pierre, « Sur cette pierre, je bâtirai mon Église », qu'est-ce que c'est que l'Église à l'époque de Jésus? Eh bien, pas du tout ce que nous connaissons aujourd'hui. L'Église à l'époque de Jésus, d'ailleurs, est-ce que ça existe? L'institution Église n'existe pas. Elle va se construire après la mort de Jésus, avec les apôtres, puis avec Paul, etc., etc. Mais à l'époque de Jésus, l'Église, elle n'existe pas. Il n'y a absolument pas d'Église telle qu'on la conçoit. Eh bien, c'est un rassemblement de quelques personnes importantes autour de Jésus, les disciples, et puis ceux qui sont aussi là pour écouter Jésus. Voilà le noyau au départ de l'Église. Mais rien à voir avec l'institution que nous connaissons. Il n'y a à l'époque de Jésus pas d'ordination, ni de prêtre, ni de pasteur. Il n'y a aucun sacrement. Il n'y a même pas de liturgie, ça va venir après. Pas de synode, pas de concile, pas tout ça. L'Église, c'est simplement un rassemblement de personnes autour de Jésus et qui reconnaissent en Jésus, eh bien, le Christ, tel que le confesse Pierre. Pierre a donc certainement une importance essentielle, primordiale, dans ce groupe d'amis, mais je ne pense pas pour autant qu'il soit investi d'un pouvoir institutionnel. Et on va voir un peu s'intéresser maintenant à ce que dit Pierre et ce que cela peut nous dire aujourd'hui encore.
Donc d'accord, admettons, Pierre n'a pas forcément de pouvoir, de rôle, je dirais, institutionnel. Il n'empêche que, évidemment, que dans l'Évangile et dans la Bible, Pierre a quand même une très grande importance. Et ça, il ne faudrait pas que, je dirais, l'anticatholicisme primaire de certains protestants empêche de le voir. Évidemment que Pierre a été un très, 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 très grand apôtre. Et peut-être, effectivement qu'il a été l'un des plus grands, voire le plus grand. On le voit dans l'Évangile, il s'y trouve sans arrêt au premier plan. C'est vrai que Pierre est très impétueux, donc il est toujours le premier, je dirais, à dire les meilleures choses, comme là, à confesser sa foi d'une façon extraordinaire. Jésus dit « Qui dit-on que je suis ?» Ils disent n'importe quelle réponse idiote. Et quand Jésus dit « Et vous, que dites-vous que je suis ?» Pierre prend la parole tout de suite et il sort une confession de foi magnifique. « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Donc il est le premier à dire les plus belles choses, mais il est aussi le premier à faire des bêtises. Je dirais, il est le premier à renier Jésus au moment de la passion, à faire semblant de ne pas le connaître. Et puis il est aussi là le premier à vouloir faire renoncer Jésus à sa mission. Quand deux versets après sa confession de foi, Jésus dit qu'il doit souffrir à Jérusalem, Pierre essaye de l'en dissuader. Incroyable. Donc oui, Pierre est vraiment le premier, pour le meilleur ou pour le pire, pourrais-je dire. Et puis quand on lit les Actes des Apôtres, c'est vrai aussi et indéniable, Pierre, c'est celui qui prend la parole. C'est lui qui fait le premier grand discours après la Pentecôte. Eh bien, c'est Pierre qui prend les choses en main. Et sans arrêt, dans les Actes des Apôtres, c'est Pierre qui fait les discours, qui fait les grandes paroles, qui dit les choses, et les grandes initiatives aussi. C'est Pierre également qui va ouvrir l'Église aux païens, avec, vous savez, le rêve qu'il va faire, et ensuite quand il va baptiser Corneille, qui était un soldat romain, je crois, avec toute sa maison, Pierre va ouvrir l'Église aux païens, c'est extraordinaire. Donc Pierre, évidemment, est, qu'on le veuille ou non, Pierre est quand même vraiment, vraiment, c'est l'apôtre des apôtres, quoi. Il n'y a rien à dire, c'est un très très grand apôtre. La question, c'est de savoir, si on a un très grand apôtre, et finalement, qu'est-ce qu'on va en faire, et est-ce que vraiment il faut le laisser au sommet de tout ou pas?
Alors certes, Pierre devait avoir vraiment une personnalité imposante, peut-être même parfois un peu écrasante. Il est là, toujours au premier rang, en tout cas au début des Actes des Apôtres. Et puis dans les Évangiles aussi, il est tout de même très présent. Mais, vous l'avez entendu, c'est plus complexe. Il est capable du meilleur comme du pire. Et il y a un Évangile qui ne met pas du tout Pierre en avant. C'est l'Évangile de Jean. Au moment du dernier pas, lorsque Jésus lave les pieds de ses disciples, on le voit bien, Pierre ne comprend rien du tout. Il n'a de cesse de se faire renvoyer par Jésus. Et puis Pierre, par la suite, n'est pas investi dans l'évangile de Jean. Donc on voit bien le débat qu'il peut y avoir autour de cette personnalité de Pierre et de son rôle important. Et puis, dans l'évangile de Jean toujours, l'institution de l'Église, je la vois tout à fait ailleurs, c'est-à-dire qu'au moment de la mort de Jésus, alors qu'il est en croix, à ses pieds, au pied de la croix, il y a trois personnes, Marie-Madeleine, la mère de Jésus et le disciple bien-aimé. Et Jésus va dire à sa mère, « Femme, voici ton fils ». Et elle dit au disciple bien-aimé, « Et voici ta mère ». Comme si à travers ce noyau, ce nouveau noyau, cette nouvelle famille, eh bien, il instituait en quelque sorte le nouveau noyau de l'Église maintenant qu'il allait disparaître. Dans l'Évangile de Jean, certainement que le noyau de l'Église, c'est la mère de Jésus avec le disciple bien-aimé. On ne sait pas trop qui il est, peut-être est-ce le frère de Jésus, peut-être Jean, là, et on ne sait pas trop, mais bon, peu importe. On voit bien que les évangiles ne sont pas si lisses que ça. Et d'ailleurs, ça a été interprété au Moyen-Âge par le peintre Fra Angelico, qui était dominicain, comme étant le noyau de l'Église, puisqu'il l'a mis à côté de la mère de Jésus et du disciple bien-aimé, et bien Saint Dominique, qui évidemment n'était pas présent au moment de la crucifixion, mais qui est celui qui a été l'instigateur de l'ordre des dominicains, ainsi créant, montrant que l'Église, petit à petit, avec de nouveau, allait croître avec ses nouveaux ordres. Ainsi, au moment de la mort de Jésus, l'institution dans l'évangile de Jean est un peu différente. Bon, je dois bien dire, si je veux être honnête, qu'à la fin de l'évangile de Jean, au chapitre 21, il y a quand même l'institution de Pierre, si on lit bien. Donc on voit bien cette tension, et finalement, ce n'est pas forcément très important. Et puis dans le livre des Actes des Apôtres, certes, Pierre est très important, au début. Il y a ce grand discours, et puis petit à petit, il avance, il guérit, il a toute une action très, très importante. Il y a ce songe dans lequel il va avoir, il va comprendre qu'il faut ouvrir l'Église, en tout cas l'Église naissante, aux non-juifs. Mais si on lit bien les Actes des apôtres, qui commande l'Église à Jérusalem? C'est pas Pierre, c'est Jacques, le frère de Jésus. Et puis, petit à petit, eh bien, Pierre va disparaître du récit. À partir du moment où Paul apparaît, eh bien, Pierre va s'estomper en réalité. À partir du chapitre 15, eh bien, Pierre, il n'existe plus dans les Actes des apôtres. Et les Actes des apôtres, il y a encore 13 chapitres puisqu'il en fait 28. Donc on voit, et c'est Paul qui prend cette place primordiale, et on le sait aussi, l'importance de Paul dans la construction de cette Église. Ainsi, certes, Pierre est très important, mais on voit qu'à travers les lectures, une lecture un peu plus fine de l'Évangile, des Actes des apôtres, eh bien, il n'y a pas que Pierre, il y en a d'autres.
Donc oui, je vois bien, Pierre, finalement, bizarrement, n'a pas été le chef de l'Église. C'est ça qui est curieux dans les Actes des apôtres, puisque c'est Jacques qui va diriger. Alors, qu'est-ce que Jésus a voulu dire ? Quand il a dit « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église ». Eh bien, j'ai une solution. Une solution, c'est de dire que quand Jésus dit ça à Pierre, il ne cherche pas à identifier Pierre à la base de l'Église, mais il dit que Pierre est la base de l'Église en tant qu'il confesse sa foi. Si vous voulez, pour résumer l'affaire, je dirais que Jésus dit « Qui dit-on que je suis ?» Pierre dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant » et Jésus lui dit « Eh bien voilà, là, Pierre, c'est là-dessus que je vais bâtir mon Église. » C'est-à-dire que l'Église, elle est bâtie non pas sur une personne, mais sur quelqu'un qui confesse sa foi, c'est-à-dire qui reconnaît en Jésus le Christ, c'est-à-dire l'envoyé de Dieu, celui qui peut donner toutes les promesses de Dieu, et que Jésus est le Fils du Dieu vivant, c'est-à-dire qu'il est l'émanation même de cette puissance spirituelle qui crée le monde et qui continue à pouvoir nous donner la vie. Et donc je pense que c'est ça, ce qui est la base de l'Église, c'est la confession de foi. Et du coup, ce n'est plus une personne qui nous serait éloignée de 2000 ans, mais ça devient chaque croyant qui peut, quand il confesse l'Église, quand il confesse Jésus-Christ, eh bien ça crée l'Église. Et l'Église, elle est fondée là-dessus, sur des croyants qui confessent que Jésus-Christ est le Fils de Dieu vivant. Voilà, ça c'est la base et la pierre de tout. Et j'ai d'ailleurs une preuve de cela. C'est que, nous l'avons lu juste après avoir confessé sa foi, Pierre dit une grosse bêtise. Il veut faire renoncer Jésus à sa mission. Et là Jésus lui dit « Arrière de moi, Satan ». C'est-à-dire que là, mais deux versets après, Jésus dit à Pierre « Tu es Satan ». Il est évident que là, Jésus n'identifie pas Pierre à Satan. Sinon, toutes nos églises, je dirais, issues de Pierre, seraient des églises sataniques, finalement. Et tous les discours de Pierre seraient des discours sataniques. Donc non, il ne faut pas identifier Pierre à Satan. Pierre est Satan lorsqu'il veut faire renoncer Jésus à sa mission, c'est-à-dire lorsqu'il veut essayer d'insinuer qu'on pourrait être chrétien sans avoir à en payer la charge et la peine. Voilà. Et ça, c'est un vrai poison démoniaque contre la foi. Et donc, effectivement, Pierre peut être tour à tour, je dirais, la pierre sur laquelle on construit l'Église quand il confesse sa foi, et il peut être juste après satanique ou démoniaque lorsqu'il essaye de faire croire que l'on pourrait renoncer aux difficultés de la mission divine. Donc il ne s'agit pas de l'identifier, mais il s'agit bien de situation. Et je vous le disais, ça c'est important pour nous, parce que du coup, nous pouvons être nous-mêmes les pierres, les fondements de cette communauté dynamique, quand nous reconnaissons Jésus comme celui qui accomplit le projet de Dieu, et nous devenons destructeurs quand nous voudrions avoir tout sans effort. Il y a la confession de foi et il y a le danger de ne pas vouloir agir et finalement on est toujours un peu en tension entre les deux.
Je pourrais difficilement ne pas être d'accord avec ce que Louis vient de dire. Mais pourtant, enfin, je suis d'accord, mais je pense qu'il faut tout de même aller encore plus loin. Vous savez, le texte biblique, à chaque fois qu'on croit avoir trouvé, être arrivé, eh bien, si on creuse un peu, il y a encore des éléments qui sont là pour nous bousculer. Là, il y a un élément qui, moi, m'ennuie un peu. C'est cette confession de foi. Alors, on dit que Pierre a confessé une foi, il confesse une foi tout à fait orthodoxe, c'est vrai. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Mais ce qui m'ennuie, c'est qu'un peu avant, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 8, lorsque Jésus guérit les démoniaques, ce sont les esprits malins, les démons, qui reconnaissent en Jésus le Fils de Dieu. Alors, eh bien, on peut s'interroger. Est-ce qu'il suffit de confesser sa foi de manière juste et orthodoxe pour être, eh bien, juste soi-même? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. La confession de foi en elle-même peut être même critiquable. Certainement, d'une part, parce qu'il ne suffit pas de confesser sa foi, il faut aussi être capable de s'engager, d'agir, de continuer, de se battre, d'aimer et aimer encore. Ça, là-dessus, l'évangile est clair. Non seulement il faut croire, mais il faut aimer. Les deux ensemble sont indissociables. Donc, il faut avoir la foi et il faut avoir une éthique. Même si chez les protestants, vous savez que la foi est première, mais c'est le fondement de notre action. Mais il faut bien évidemment que cela débouche sur quelque chose. Mais j'irai un peu plus loin sur la confession de foi. Parce que chaque dimanche, nous confessons notre foi. En ce moment, dans l'Église protestante unie, on cherche à écrire une nouvelle déclaration de foi. Alors on s'étripe un peu, mais finalement, je crois que peu importe. Peu importe, parce que de toute façon, toute confession de foi est une manière d'enfermer Dieu dans une image, dans un discours. Et c'est ça qui est remis en cause certainement ici. Une confession de foi n'est jamais aboutie. Nous sommes invités à découvrir Dieu et Jésus, à travers la personne de Jésus encore et autrement. Parce que des fois, il est Seigneur, des fois il est Fils de Dieu, mais des fois il est mon frère, et puis des fois il est à côté de moi, il a cette proximité. Et c'est certainement ça la confession de foi juste. Elle n'existe probablement pas. Et à chaque fois, nous devons réajuster notre foi en fonction des événements, de ce que nous vivons. Et ainsi, ici, ce qui est pointé, c'est de ne jamais enfermer Dieu dans un dogme, dans une doctrine. Bien au contraire, chaque fois, nous avons à découvrir et de redécouvrir Dieu dans une rencontre intime. Il faut donc bien voir qu'il faut toujours essayer d'aller plus loin et que jamais l'Église ne peut se contenter de se fonder sur un dogme, si orthodoxe soit-il.
Donc finalement, oui, ce texte est curieux parce qu'on a l'impression qu'il dit quelque chose, la confession de foi, c'est la base de l'Église, et puis immédiatement, il l'invalide. C'est-à-dire, Pierre qui est monté au sommet, immédiatement, il est précipité au plus bas, montrant qu'il ne suffit absolument pas d'avoir une foi juste pour pouvoir être quelqu'un de bien. Donc finalement, ça rend les choses effectivement plus compliquées. Est-ce qu'il faut se dire que c'est 1 plus 1 moins 1 égale 0 et que par conséquent, bonne confession de foi, mais mauvaise action, on revient au point de départ et il n'y a plus rien? Donc ça pose finalement la question de savoir, est-ce que après ce passage finalement du plus et du moins, est-ce qu'il reste quelque chose pour fonder notre vie chrétienne? Et est-ce que l'on peut considérer après ça que malgré le vade retro Satanas, finalement, Pierre pourrait quand même rester le fondement de l'Église, ou je dirais de notre foi, c'est-à-dire de notre relation à Dieu?
Moi, je répondrais certainement, finalement. Certainement, et je reviendrai au début, même si j'ai essayé de remettre en cause la primauté de Pierre, je reviendrai à cette primauté de Pierre. Oui, je pense que le Christ, enfin Jésus, lui dit « Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon Église », c'est quelque chose d'essentiel. Et puis, ça me rejoint, ça nous rejoint, aujourd'hui encore. Il est bien le fondement de l'Église, la base, cette pierre angulaire si importante dans la construction de la maison de Dieu. Et ce qui me rejoint, eh bien, c'est finalement que Pierre est profondément humain. Jésus a choisi un humain, Je pense quand même que Pierre avait quelque chose d'un peu exceptionnel, d'un peu plus exceptionnel que moi. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais tout de même, il est humain, avec ses forces, sa vitalité, sa manière débordante de confesser sa foi, mais aussi ses faiblesses. Lorsqu'il se cache, il renie Jésus. Ainsi, Pierre est profondément humain. Il nous rejoint dans notre humanité. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle. C'est que Dieu compte sur nous. Eh bien, je ne dirais pas peu importe ce que nous faisons, mais il sait que nous pouvons nous tromper, que nous pouvons chuter, et pourtant, il a choisi des humains pour bâtir son Église. Pierre est parfois mauvais, parfois bon, parfois juste, parfois injuste, comme nous. Il faut avoir cette tension dialectique de l'être humain. À la fois, nous sommes remplis de péchés, mais nous sommes certainement remplis de bonnes choses puisque Dieu nous aime et que Dieu nous pardonne. Nous sommes enfants de Dieu, pleins de grâce. Nous faisons souvent, eh bien, le mal que nous ne voudrions pas, comme dit Paul, et nous faisons également, nous n'arrivons pas à faire le bien que nous voudrions. Et pourtant, Dieu nous a choisis. Dieu a choisi Pierre. Et peut-être que c'est ça, la succession apostolique. C'est que nous sommes tous, en quelque sorte, Pierre. C'est exactement, d'ailleurs, le dogme, mais j'aime pas ce mot-là, de l'Église protestante, où nous sommes tous prêtres, nous sommes tous en relation avec Dieu, et nous sommes tous responsables, devant Dieu, eh bien, de construire cette Église et de construire aussi ce royaume. Parce qu'il a remis les clés du royaume. Mais qu'est-ce que c'est que le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, c'est construire jour après jour un monde qui est à la fois déjà là, mais pas encore, un monde que Dieu désire. Et Dieu, pour cela, il a choisi des humains. Il ne nous a pas choisis ni parfaits, ni saints. Alors on voudrait, c'est ce que tentent de faire croire et ont toujours tenté de faire croire les intégristes, construire eh bien, une église ou un monde sur une vérité intangible, sur des êtres qui seraient parfaits. Eh bien non, les êtres parfaits n'existent pas. Nous sommes, nous, tels que nous sommes, et c'est tels que nous sommes que Dieu a besoin de nous. Ce qui constitue eh bien, l'église, c'est d'être en relation avec Dieu, à l'écoute du Christ. Nous pouvons aussi confesser notre foi et en même temps, nous pouvons être conscients de notre faiblesse et appeler Dieu pour essayer de faire mieux. Être conscients de notre humanité qui n'est jamais un modèle pour les autres. Il n'y a pas de modèle dans l'Église. Oh, nous avons tous évidemment des gens qui peuvent nous aider, que nous pouvons admirer, mais pourtant, eh bien, nous aussi, chacun de nous, nous pouvons construire notre petite pierre à cet édifice. Ainsi, dans cette histoire, dans cette manière dont Jésus institue Pierre, eh bien, il nous dit que nous pouvons assumer complètement notre faiblesse. Elle est comprise à la lumière de la grâce de Dieu qui peut faire son œuvre en nous, jour après jour. Comme nous dit l'Évangile, là où le péché abonde, c'est-à-dire en nous et même en Église, la grâce surabonde. Ainsi, quand je suis faible, c'est alors que je suis fort, car la grâce s'accomplit dans ma faiblesse. Amen.